Et c'est parti.
Alors, on pourrait s'appeler jeu de ficelle.
Ou Arpette FM.
Câblage.
Ou jeu d'arpette, jeu de...
Sur radio...
Une heure tous les... Avec une contrainte à chaque fois.
Il y aurait de la création sonore.
De l'écriture collective.
Des jeux.
De la fiction.
Des interviews.
Des micro-trottoirs.
Des psychotests.
Et de la musique.
Et aujourd'hui, c'est la maquette.
Salut.
Bonjour.
Vous venez d'écouter Pocket Piano de DJ Mehdi.
Alors, quand on a décidé de faire cette première émission sur la thématique maquette, eh ben on va pas vous le cacher, ça a donné lieu à pas mal de jeux de mots. Maquette, maquette, maquéquette, bref. On a eu envie de partir, nous aussi, en quête. En quête radiophonique. Et on n'avait pas envie de partir seul.
Parce qu'un truc super avec la radio, enfin la radio bidouille, pirate, associative, c'est pas juste la beauté du son et la pertinence du contenu. Même si on adore le son, la beauté et la pertinence. Non, ce qu'on trouve super, c'est aussi la communauté de gens qui écoutent la radio. Pas la masse statistique qui permet de mesurer la valeur d'un son podcasté au nombre de clics.
On avait envie de partir avec les potes qui écoutent nos émissions. Celles qui écoutent mais qu'on connaît pas ou peu. L'ami de passage qu'on a très envie d'enregistrer sur ce sujet, les camarades d'autres émissions qu'on croise une fois par an lors des rencontres radio-rageuses ou celles des radios libres, celles qu'on voit régulièrement.
Aussi avec les cohabitantes qui tous les mois participent en l'ayant plus ou moins choisi. À la prochaine émission, au détour d'enregistrement et de conversation, avec toutes celles et ceux qui nourrissent nos émissions et nos créations. Avec toutes ces gens qu'on a eu envie de se mettre en quête de notre émission radio de rêve.
Quand tu as posé la question et qu'après j'y ai réfléchi, je l'ai mal comprise, alors du coup je me suis dit, en allumant mon poste radio, j'adorerais qu'il y ait des odeurs avec les sons. Et quand tu as reposé la question juste avant, je me suis dit que j'aimerais beaucoup qu'il y ait des manières d'apprendre à chanter des chansons ensemble et que tu puisses toi chanter avec les gens en t'en foutant de si tu chantes faux, quel type de voix tu as, voilà.
Moi, ce que je rêverais d'écouter à la radio, c'est la création sonore où les gens, ils ont pensé dans quel espace se disent certaines choses, parce que je trouve que c'est compliqué d'avoir des choses avec des formes qui sont chouettes et du discours qui est bien. Du coup, ce que j'aimerais entendre à la radio, c'est des ambiances sonores où les gens disent des choses pertinentes.
Eh ben moi, j'aimerais beaucoup écouter une émission où on demande aux enfants, à des enfants, comment ils et elles aimeraient qu'on soit dans le monde, les uns et les unes avec les autres.
En breaking news, ça me ferait rêver d'être dans un truc un peu de science-fiction.
Ah, ça pourrait faire des fausses breaking news. Oh, ce serait drôle ça, des fausses breaking news.
On est lundi matin. Il est 9h. Bon, c'est un lundi matin, c'est pas hyper cool comme jour. Se lever à 9h, c'est un peu chiant. Mais bon, le réveil a sonné, tu te lèves, bim. Café, tu mets la machine en route, tout ça. Et puis, bon, bah, comme d'hab, comme tous les matins, finalement, tu mets la radio. Et du coup, France Inter. Je sais plus normalement c'est quoi l'émission, tu vois, de 9h, de 9-10h du matin. Et là, Breaking News, flash spécial. Là, il y a, je sais pas comment s'appelle la journaliste, qui dit des insurrections dans toutes les capitales du monde. Les pouvoirs vacillent, les populations sont dans la rue. On sait pas de quoi demain sera fait, mais la révolution mondiale a commencé.
Cherche partenaire pour une partie de domino.
recherche personne très joueuse, active ou passive, pour changer le cours des choses. Parce que ça ne peut pas se passer en douceur. Si tu es féministe, mais pas n'importe lesquelles, si tu es père, P-A-I-R-E, si tu fais partie de celles qu'on n'écoute jamais, si tu as envie d'être avec nous, si tu as envie d'être une merveille d'explosion au petit matin, une manif de gilets jaunes sans flics et sans drapeau français, un mégaphone dans une bagarre, on se retrouvera sur la place des premières fois et de toutes les tentatives, le dimanche 10 avril 2022, pour la grande braderie révolutionnaire.
Pour que la partie soit réussie, on cherche au plus vite des marteaux,
toutes sortes d'objets contendants,
des convictions,
du ruban,
des chaussures,
des masques,
des couvertures,
des thermos,
de l'organisation,
de la tendresse,
des grains de folie,
de l'énergie,
de l'envie,
des émetteurs,
de la lacrymo,
de la rubalise,
des matelas,
de la musique,
des lecteurs MP3,
des grandes cuisines, des grandes cantines,
des micros,
des bateaux,
des vidéoprojecteurs,
de la thune pour le début.
Ramène ta fraise. Je vous propose d'écouter dans un instant l'interview que j'ai réalisée avec Azani à propos de son mémoire de master sur le théâtre noir parisien.
En fait, ce mémoire, je pense qu'il m'a vraiment fait grandir. Et du coup, d'être dans un rapport de curiosité à mes aînés et pas dans un rapport de doctrine, ça change tout. Je m'appelle Azani Ebengou. Je suis comédienne, metteuse en scène et chercheuse. J'ai notamment écrit un mémoire de master qui s'appelle « Le théâtre noir de Paris, 1975-1989, mémoire effacée d'une conscience noire en mouvement ». 1975, c'est la création de la troupe. 1979, c'est la fondation de l'ensemble culturel Théâtre Noir, qui est un théâtre, un lieu, dans le 20e arrondissement à la base, puis ensuite dans le 12e arrondissement. Le premier centre culturel noir de France. Et 1989, c'est la fin, la fermeture de cet ensemble culturel. C'était important pour moi, justement, de développer cette recherche-là. Et parce que j'ai découvert le théâtre noir par hasard, et que je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas, que j'en avais jamais entendu parler, alors que je faisais du théâtre depuis 10 ans. Donc ça m'a dérangée, ça m'a intriguée, je me suis sentie assez en colère. Comme si, voilà, on a un peu parfois cette sensation qu'on nous a caché quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve et je sais que d'autres personnes aussi, quand tu découvres une histoire qui t'appartient, qui te concerne et que t'en as jamais entendu parler avant, alors que ça fait partie de ta vie, ça devrait faire partie de ta vie, quoi. Je rêvais à un lieu de théâtre pour nous, par nous. Et puis, je me disais, ah bah comment je l'appellerais si j'avais la possibilité de l'ouvrir, tu vois. J'ai pensé théâtre noir. Je trouvais ça un peu évident comme association de mots. Et puis, je l'ai tapé dans Google. Aussi bête que ça, quoi. Puis là, tu te rends compte que l'idée géniale et hyper originale que t'as eue, bah, en fait, elle a déjà eu lieu il y a 50 ans par des gens qui pourraient être tes parents, tes grands-parents. Enfin, donc, il y a un truc bizarre comme ça d'héritage coupé. Je me suis retrouvée à découvrir cette histoire-là, cette histoire française. Afro-française, afro-péenne, afro-caribéenne, afro-caribéano-française, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et à me dire, putain, ok, y a ce truc-là, j'y connais rien, pourquoi j'y connais rien, et du coup chercher des informations et ne pas en trouver. C'est-à-dire que donc, j'ai tapé ça dans Google et j'ai trouvé une page Wikipédia. Et c'est tout. Et la page Wikipédia, par contre, était assez documentée. Mais bon, ça reste une page Wikipédia. Et il y avait des références en bas avec un livre qui s'appelle « Itinéraire du théâtre noir, mémoire mêlée », qui est un livre qui a été écrit par Benjamin Jules Rosette et qui est le point de départ de ma recherche, puisque je l'ai commandé, je l'ai trouvé, je ne sais plus, en ligne, quoi, sur un site de revente dont je tairai le nom. Et je l'ai acheté, il est arrivé, je l'ai lu, et puis j'ai dit « bon, bah c'est parti, allons-y ». Il y a eu deux fondateurs, Benjamin Jules Rosette et Darling Legitimus. Alors, Darling Legitimus, c'est la mère ou la grand-mère du théâtre noir, en fait. C'est la cofondatrice du théâtre noir avec Benjamin Jules Rosette, qui est une actrice qui est née au début du XXe siècle, qui est martiniquaise elle aussi, et qui a été une collègue de Joséphine Baker. Donc, on connaît assez bien Joséphine Baker, surtout en ce moment. Mais on ne se souvient pas trop de Darling Legitimus. C'est d'ailleurs la grand-mère de Pascal Legitimus, qu'on connaît un peu mieux, qui était dans Les Inconnus. Et c'est une actrice, en fait, qui a plus de 150 films à son actif, des dizaines et des dizaines de pièces de théâtre, qui a vraiment une carrière, avec beaucoup de travail, beaucoup de production, et qui a fini par être reconnue pour son travail en 1983, donc à la fin de sa vie. Elle a obtenu le premier prix d'interprétation au Festival de Venise, à la Mostra de Venise. Et donc voilà, Darling Legitimus, c'est le parcours d'une femme noire, d'une femme martiniquaise en France. À une époque où, voilà, elle arrive en France, elle quitte la Martinique, elle est sujet colonial, elle arrive en France, elle devient quoi ? Et puis donc elle trouve sa place dans le milieu artistique, donc le milieu artistique des années folles, avec toute la tendance complètement exotisante et colonialiste de l'art nègre. Voilà, c'est vraiment l'époque de Joséphine Baker, donc faut se représenter aussi ça, c'est les expositions coloniales. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour du jazz, de la musique nègre, de la musique sauvage, etc. Donc c'est elle trouve sa place elle trouve une place en tout cas dans cet imaginaire là avec son travail. Et voilà, je pense que le théâtre noir c'est venu aussi valider quelque chose, je sais pas. En tout cas voilà, elle s'est retrouvée dans cette position où elle a cofondé, enfin Benjamin Jules Rosette est venu la chercher en fait, pour lui dire j'ai besoin d'acteurs et d'actrices, j'ai besoin de toi, alors qu'ils se connaissaient pas très bien, ils se connaissaient pas, hein, pour cofonder cette troupe avec moi, pour justement emmener des acteurs, parce qu'à l'époque c'était, bon déjà aujourd'hui en vrai c'est un peu tabou de dire noir, c'est en train de changer, mais à ce moment-là c'était, c'est même pas que c'était tabou de dire noir, c'était que on n'allait pas se rassembler, c'était déjà difficile. Les conditions de travail étaient déjà difficiles, on n'allait pas se rassembler autour de nos difficultés et de notre différence qui rendait les conditions difficiles. Donc c'était un peu contre-intuitif en fait de dire allez, on va faire une troupe une troupe d'acteurs noirs quoi. Donc il lui a dit bon, il faut que tu m'aides, il faut que tu emmènes avec moi cette dynamique là. Et elle a joué ce rôle-là hyper fort de fait de fédérer. Et puis c'était une actrice de renom. À ce moment-là, c'était une actrice de renom. C'était un grand nom de dire, ok, la troupe théâtre noir avec Darling Legitimus, c'était pas n'importe quoi, tu vois. Le quotidien de Paris, 1984, qui titre Darling Legitimus, la savoureuse mama du gouverneur. Donc gouverneur, ça fait référence à Gouverneur de la Rosée, leur première pièce. Et ça, c'est juste après qu'elle ait reçu du coup le prix d'interprétation en 1983 à Venise. Et pour moi, je n'ai pas choisi cet article, cette coupure au hasard, c'est qu'il cristallise cette exotisation et cette mamaïsation de la femme noire, la femme antillaise, quoi, qui ne peut être autre chose qu'une mama. Voilà. Et donc, elle joue le rôle d'une grand-mère dans Rue Cazenègre de Eusanne Palsy, pour lequel elle a ce prix. Et Benjamin ne cesse de parler d'elle comme sa mère au théâtre. Au sein du théâtre noir, je me suis beaucoup interrogée sur la question du genre, parce que je m'interroge sur la manière dont on écrit l'histoire, et que Benjamin Jules Rosette est une figure centrale du théâtre noir de Paris, incontournable, et je me demande pourquoi. Voilà. Pourquoi, comment, quelle est cette place ? Pourquoi est-ce qu'il a cette place ? Qui lui donne cette place ? Etc, etc. Qu'est-ce que cette place occulte ? Et essayer de questionner la nature genrée de l'écriture de l'histoire, quoi. Lui, quand il parle de son vécu, il dit « Enfant, j'étais blanc. Il a grandi dans un univers assimilationniste en Martinique. Il est né dans les années 40, en 1940 même. Et il a grandi donc avant la départementalisation. Il est né sous les colonies. C'est les 6 premières années de sa vie, il était français. Un sujet colonial. En 1946, il est devenu français. Il est devenu un citoyen français dans un département français. Donc il a grandi dans cette atmosphère-là, il se voyait comme un petit garçon blanc, nos ancêtres les Gaulois, c'est quand même, il faut se représenter le niveau d'acculturation de cette époque-là. Il y a toujours de l'acculturation, mais c'est un autre niveau en fait, je pense qu'on peut même pas se représenter. En tout cas que moi j'ai du mal à me représenter quoi. Il est venu en France pour ses études, il a fait son service militaire, il a commencé à faire du théâtre, à faire un peu de cinéma, par-ci par-là, et devenir acteur. Et puis un jour, il a eu un déclic. Il était à un tournage à Djibouti, qui est alors encore colonisé, parce que c'est un des territoires qui a été décolonisé le plus tard, en 1980, si je ne dis pas de bêtises. Et il est à Djibouti pour un tournage, et il y a un caméraman blanc, qui lui dit, qu'un jour le prend à part et lui dit qu'il se comporte comme un petit bourgeois nègre et qu'il n'a pas du tout conscience de sa communauté, de ce qu'il représente, et que, en gros, c'est un pourri gâté, quoi. C'est un bourge pourri gâté. Et il en parle aujourd'hui, 40 ans après, comme si ça lui était arrivé aujourd'hui, quoi. Donc il y a un traumatisme, et il y a une nécessité après ce traumatisme-là d'entreprendre. Donc ça, il raconte que ça déclenche sa nécessité de créer le théâtre noir. Darling, elle n'est plus avec nous, je ne peux pas lui poser de questions. Donc il y a une difficulté, un obstacle énorme pour accéder en fait. Mmh. Pour accéder à l'information aussi, parce que bon... Tout le monde s'en fout d'elle. Honnêtement, tout le monde s'en fout d'elle. À part ses petits-enfants qui, du coup, bon, font quand même ce travail-là. Mais, je veux dire, j'étais à la BNF. J'ai retiré les archives sur elle. J'ai eu une archive qui s'appelait « Portrait de Darling Legitimus ». C'était la photo de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai vu le visage d'une femme noire que je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais... Attends, parce que quand même, bon, je n'ai pas vu son visage, peut-être, voilà, j'avais pas vu de portrait comme ça d'elle, mais ça lui ressemble pas. Et puis, donc, j'avais des photos de pièces, donc je compare, machin, et puis rapidement, je me dis, en fait, ce n'est pas elle. Donc, je vais au guichet, et je dis à la nana, non, c'est pas Darling Legitimus. Elle me dit, c'est qui? Je dis, je sais pas, c'est votre travail, en fait. Moi, je suis pas archiviste. Je connais pas toutes les actrices noires, je ne sais même pas si cette femme est actrice, enfin, probablement parce qu'on était au département des arts du spectacle. Mais voilà, ce n'est pas Darling Legitimus. Donc, et cette erreur archivistique, elle est parlante. Parce que c'est pas un hasard non plus. C'est qu'on est dans un monde où les femmes noires sont interchangeables. Donc voilà, il y a cette difficulté d'accès là, il n'y a pas beaucoup de documentation, je ne sais même pas si elle a laissé des écrits, enfin ça c'est aussi un travail qu'il faudra que je fasse, qui reste à faire. J'ai de la curiosité pour son intériorité, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle se percevait, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représentait pour elle d'avoir des enfants, j'aimerais savoir pourquoi elle s'est mariée à ce moment-là, j'aimerais savoir, c'est de l'intérêt aussi en tant que femme noire pour mon ancêtre. Et puis voilà, il y a un aspect biographique, juste voilà, c'est nécessaire qu'elle soit documentée, parce qu'elle mérite d'être documentée, parce qu'elle a tourné dans 130 films, et qu'on n'est pas foutu de... Ouais. On n'est pas foutu d'écrire des bouquins sur elle, d'analyser son parcours, enfin je veux dire, elle est née en 1907, elle arrive en 1925 en France, elle commence à tourner dans les années 25, dans les années 30, en même temps, t'as... T'as une immensité de forces historiques qui se mélangent, qui se cognent dans son parcours, dans sa vie. Ça me semblait important, de mon point de vue extérieur, aussi en tant que, on va dire, enfant, petite fille du théâtre noir de fête, enfin voilà, en termes de génération, de me réemparer de cette histoire-là et de la documenter, de l'archiver, de la raconter, parce que j'en ai pas fait partie, donc c'est un recul historique en termes de période et c'est un recul générationnel parce que c'était pas les mêmes enjeux. J'ai construit ma compréhension des rapports de domination dans un rapport de doctrine, de où t'as raison, où t'as tort, où t'es problématique, où t'es pas problématique, où t'as compris la vie, où t'as pas compris la vie, grosso modo, un truc très binaire comme ça. Et du coup, qui occulte, mais une diversité de perspectives du monde, et d'épistémologie, pour employer les bons mots bien universitaires, et de cosmogonie, et de tout ce que tu veux. Tu éludes, et en même temps, peut-être que c'est nécessaire. J'en sais rien, tu vois, pour avancer, pour construire des choses qui sont précises, qui sont efficaces, des outils de lutte, des projets politiques, etc., etc. Peut-être que c'est nécessaire. En attendant, moi, je suis aussi artiste, et je suis aussi humaine, en fait. Et du coup, d'être dans un rapport de curiosité à mes aînés, et pas dans un rapport de doctrine, ça change tout. Et moi, je crois que ça m'intéresse plus, en fait. Je trouve que c'est intéressant, la doctrine, mais je sais pas si c'est ce pourquoi je suis faite, tu vois. Mais bien sûr, ça me quitte pas, mais je m'interroge sur comment, en fait, faire entrer toute cette complexité dans un discours politique.
Thank you.
Vous êtes toujours dans l'émission qui pourrait s'appeler Jeu de ficelle, Arpette FM, câblage, jeu d'arpette, jeu de... sur radio. Et on vient d'écouter la chanson Chercher le garçon de Taxi Girl.
Et maintenant, c'est l'heure du grand psychotest.
Alors, comme le thème de cette première émission est la quête, inspiré lui-même par l'idée de faire une maquette, nous nous sommes demandé à quel type de quête vous vous identifieriez le plus. Partant des imaginaires des Monty Python, du Saint Graal, d'Indiana Jones, nous avons ouvert les possibilités vers d'autres personnalités célèbres que nous vous révélerons dans les réponses aux questions. Alors, installez-vous bien sous le parasol, prenez un crayon et tendez l'oreille. Voici trois questions, très personnelles, un peu comme un jeu de rôle, qui nous permettront de savoir où vous vous dirigez. Les réponses aux questions ne sont pas valables scientifiquement. Ou à l'inverse, ces trois questions suffiront pour vous révéler enfin la vérité ultime sur la quête de vous-même. Et bien sûr, que vous soyez avec nous en studio ou derrière votre poste, vous pouvez répondre aux questions. On commence ?
Oui.
Allez,
moi je suis prête.
Première question. Tu n'as jamais connu ton grand-père. Tu sais que ta grand-mère est partie au Mexique en 1952. Elle en a rapporté des photos qu'elle t'a transmises dans son album. Rongé par le besoin de savoir, tu décides de partir à la recherche de ton grand-père. Pour seule réponse, ta tante évoque l'existence d'un facteur. Que fais-tu ? Tu te plonges dans l'album photo et tu interroges tous les membres de ta famille. Tu les observes afin d'imaginer la voix, l'apparence et la personnalité de ton grand-père. Tu passes l'album photo à travers un logiciel de reconnaissance faciale afin de retrouver à coup sûr l'identité de ton grand-père. Tu fais ton sac pour partir au Mexique afin d'apprendre l'espagnol et interroger tous les facteurs que tu rencontres. Deuxième question. Cette semaine, ta voyante t'annonce que tu vas faire une rencontre déterminante. Pour être sûr que cela arrive et mettre toutes les chances de ton côté, assis en terrasse, tu dessines, tu fais des croquis des gens qui passent dans la rue. Tu te mets à imaginer des relations avec les différents personnages que tu as dessinés. Tu hacks les datas de tous les sites de rencontres que tu connais pour analyser les corrélations entre les profils, les photos et le succès des rencontres. Te voici prêt à créer un profil robot idéal. Ton plan est infaillible. Tu organises des dates avec des gens dans des lieux où tu n'étais jamais allé auparavant. À l'opéra, dans une salle de sport, sur une plage éloignée dans une autre ville et dans la nouvelle soirée branchée. C'est bon, vous avez le temps de répondre ?
Oui.
Oui.
Troisième question. Tu aimerais, ou alors ton objectif ultime, ce serait d'obtenir la gloire éternelle. Mais comment faire ? Tu passes tout ton temps à écrire. Tu te dévoues entièrement à l'écriture. Écrivain, écrivaine torturée, seul, pauvre, tu te prends des râteaux de la part de tous les éditeuristes que tu sollicites. La critique t'éreinte, mais tu continues à écrire, parce que t'es persuadé qu'un jour, ton chef-d'œuvre sera reconnu à sa juste valeur. Tu consacres ta vie à la création d'un vaccin super puissant contre le Covid pour éradiquer la pandémie mondiale tout en endiguant la montée du fascisme. Faute de moyens, ça se complique, tu t'inocules tous les variants pour tester l'efficacité du vaccin. Tu essayes de devenir Thomas Pesquet ou Neil Armstrong pour parcourir l'univers, arpenter les trous noirs et enfin découvrir des formes de vie différentes sur une autre planète.
Ouais, elle est difficile celle-là.
Ouais. C'est chaud.
Je vous laisse un peu de temps pour rassembler vos réponses. C'est bon pour les réponses ? Alors, tu as une majorité de... Tu es plutôt Marcel. Comme Marcel Proust, ta quête est plutôt personnelle, plus artistique. Elle passe par une curiosité pour les autres, par l'observation de leurs habitudes, de leur évolution. Elle passe aussi par une forme d'introspection, de recherche en toi-même, dans tes souvenirs ou ton imagination. Marcel sacrifie une partie de sa vie à la création. Cela l'isole des autres et ça ne lui apporte pas encore la gloire. Tu dois garder la confiance nécessaire à la réalisation de ton grand projet. tu as une majorité de...
C'est pas...
Enchantée. Tu es plutôt Marie. Comme Marie Curie, qui consacra sa vie à étudier la radioactivité, ta quête passe par la méthode scientifique, la rigueur et l'obstination pour vérifier tes intuitions et obtenir des découvertes, au point parfois de prendre des risques pour ta propre santé. Comme Marie, qui est morte des effets des radiations sur son propre corps. Et sans forcément obtenir une reconnaissance à la mesure de tes découvertes. Si Marie Curie a obtenu 2 prix Nobel, la plupart des femmes scientifiques sont oubliées.
C'est moi.
Salut, Alex. Comme Alexandra David-Neal, aventurière et exploratrice de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ou comme Anne-Marie Schwarzenbach, autre aventurière, écrivaine et photographe du début du 20e, tu rêves de parcourir le monde, de dépasser les océans et les sommets pour explorer les régions lointaines, pour rencontrer celles et ceux qui y vivent, en apprendre un peu plus sur toi-même et en rapporter des récits et des images.
Waouh!
Bah moi, je suis un peu les trois parce que j'ai eu une réponse de chaque.
Ok, waouh! La chance!
Bah merci.
Merci pour ce psychotest.
Merci à vous.
Qu'est-ce que c'est la quête?
Qu'est-ce que c'est la quête? Publicité. La quête en ligne, une plateforme au service de la continuité de la mission de l'Église. Il est offert aux catholiques de participer au geste liturgique qu'est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme de collecte en ligne. La quête est avant tout un geste liturgique qui consiste en une offrande faite au cours de la messe par les fidèles. Les fidèles peuvent donc se rendre sur le site .catholique.mm afin de procéder à leur offrande. Par l'offrande de la quête, tous les fidèles s'associent au don que Jésus-Christ a fait de sa vie et qui a célébré dans l'Eucharistie. Fin de la publicité.
À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Alors, on passe maintenant à l'enquête exclusive sur les maquettes, la passionnite aiguë de l'ambiguïté des répliques.
C'est un monde en miniature où chaque détail a son importance. Une ville qui, de nuit comme de jour, vit au rythme des trains. Modéliste ferroviaire, Jean-Claude Gautré a consacré toute une pièce de sa maison à Anglette, à sa passion. Sa maquette s'étend sur 200 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. Un travail minutieux et titanesque.
Les trains circulent sur 1 km de voie. Un train met plus d'une demi-heure à faire le tour. Sous la maquette, vous avez 20 km de câbles électriques qui alimentent bien sûr le fonctionnement des trains, mais également 1001 scénettes de la vie de tous les jours.
La montagne a été façonnée en plâtre, l'herbe collée à la main. Un décor qu'il a entièrement fabriqué. Des milliers de personnages et d'animaux ponctuent le circuit, l'œuvre de toute une vie.
30 000 heures sur 30 ans, environ 3 heures par jour.
Alors on a toujours trouvé un peu ambivalente cette passion des maquettes, à la fois excitante et énervante, à la fois louche et attrayante. La maquette, c'est la modélisation d'une proposition. C'est imaginer en petit avant de réaliser en grand. Répliquer en petit ce qu'on ne peut voir en grand. La maquette, c'est aussi le projet, une autre dimension de la réalité, une autre réalité.
La maquette, c'est un peu excitant. C'est les dinosaures qu'on ne pourra jamais voir autrement. C'est les répliques des bateaux, qui pendent du plafond de la bonne mer en souvenir des marins sauvés d'une tempête ou d'un naufrage. Oui, il faut qu'on vous le dise, ça nous émeut un peu d'imaginer des gens en train de fabriquer consciencieusement des maquettes par amour pour celles qui sont revenues de la mer. Et puis c'est beau, ces voiles et ces couleurs. La maquette, c'est aussi un truc d'artiste. Les premières ébauches d'une peinture ou d'une sculpture ou d'un décor. Un modèle d'inspiration. Un truc encore un peu brouillon.
C'est des bâtiments vus du haut. Comme si on était dans un avion, en moins cher. Avec moins de contrôle de papier et moins de flics au kilomètre carré. À Lyon, il y a le musée des miniatures et du cinéma avec un étage entier dédié aux maquettes. C'est dans le Vieux-Lyon et ça vaut carrément le détour. Un passionné s'est amusé à reproduire en miniature des bâtiments existants. À l'échelle en plus. Il mesure pendant des heures et ensuite reproduit en tout petit, de manière réaliste. Dan Holman a fabriqué des dizaines de maisons de poupées de décor. La grande salle de danse de l'Opéra de Lyon, qui donne sur l'hôtel de ville, l'intérieur d'un abattoir, d'une boulangerie, d'une grande brasserie parisienne, d'un atelier de peinture ou d'une traboule. Que des lieux chargés d'histoire et d'époque. C'est impressionnant en détail, en ressemblance et en délicatesse. Des mirages visuels qui nous projettent dans l'intimité d'endroits où on n'est jamais allé et où on n'aura jamais le droit d'aller ou qui n'existent plus. La maquette, c'est aussi un jeu d'enfant. La petite voiture, le circuit de train, les Legos, la maison de poupée, l'école et le marché. Les unes souvent offertes aux petits garçons qui rêvent de construction et d'aventure pour leur donner envie de faire comme les grands. Les autres souvent offertes aux petites filles pour leur donner envie aussi de certains espaces et activités domestiques.
Parce que la maquette, ça sert aussi à reproduire. Reproduire des rôles, reproduire des profits. C'est un truc d'ingénieur, d'urbaniste, des gens qui pensent l'aménagement de nos villes, de nos vies, de nos activités, des objets de notre quotidien. Qui font des plans, prennent des mesures, montent des murs, rationalisent l'espace. La maquette, c'est un outil pour qu'ils ne perdent pas d'argent. Et même qu'ils en gagnent. Montrer aux classes propriétaires à quoi va ressembler un quartier après travaux, une fois que les pauvres seront partis. Penser en petit, comment faire des économies, pour les réaliser en grand.
La maquette, c'est aussi un outil de lutte et de mémoire. Le 5 novembre dernier, par exemple, lors de la troisième commémoration de l'effondrement de l'immeuble rue d'Aubagne, des membres de l'association Noix et Debout ont exposé une maquette qui modélise un idéal pour vivre dans le quartier. C'est une manière de conjurer le sort des immeubles laissés à l'abandon par des promoteurs mercantiles. Cette maquette avait été réalisée l'année du drame par des étudiantes de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Du carton et du bois, pour symboliser une demande de dialogue, du petit, pour se battre contre des géants. Les habitantes veulent choisir l'avenir de leur quartier et refusent de le laisser entre les mains des élus. Et il y a de quoi, non ? Parce que l'insalubrité des logements est forte à Marseille et que les conditions de vie des pauvres touchés par l'insalubrité ne semblent pas au cœur des préoccupations de la mairie. Depuis 300, 1500 immeubles ont été déclarés dangereux. Parmi eux, 800 ont été frappés par des arrêtés de péril évacués. 600 sont toujours interdits d'accès. 40 000 personnes ont été déplacées, dont 140 familles toujours logées dans des hôtels. Est-ce qu'on fait des maquettes de leur maison, de leur appartement ? Bref, les élus, quant à eux, essayent d'écrire vite l'histoire en reléguant la maquette au musée. Leur message est clair et elles préfèrent qu'elles appartiennent au passé plutôt qu'à l'avenir, qu'elle soit déjà un peu oubliée, dans un état figé.
Nous, ce qu'on aime dans les maquettes, c'est leur côté brouillon et minutieux. Voir grand en tout petit, construire petit pour penser grand, partir petit pour inventer grand, ne pas figer, se mettre en mouvement, essayer, reprendre, faire un numéro zéro, rater, essayer encore, s'amuser, repartir, en quête d'autrement, nos mains et nos oreilles pour fabriquer notre maquette.
Moi, ce que je rêverais d'entendre à la radio en ce moment, en tout cas, c'est des transpédéguines, et surtout des trans-CDPD, parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup à la radio, qui racontent un peu ce qui les font vibrer, ce qui leur file encore là. Leur file encore de la rage et surtout quelles sont leurs stratégies collectives un peu pour garder de la force et de l'espoir dans ce monde qui est de plus en plus hostile.
Je crois que ce que je rêverais d'écouter en ce moment, c'est des histoires de gens qui racontent comment ils ont dragué des gens, mais autrement que sur des applications de rencontres, genre des un peu des gestes romantiques de drague, pas forcément à des personnes qu'on connaît ou enfin qu'on fait dans une relation amoureuse, mais vraiment spécifiquement pour draguer quelqu'un, mais dans des trucs un peu créatifs, des trucs où on se dit mais qu'est-ce que cette personne a eu de la chance de se faire draguer comme ça.
Alors moi, ce que j'aimerais bien entendre quand j'allume mon poste de radio, c'est des personnes qui parlent du futur et notamment de comment on fait pour pas tous et toutes partir acheter des trucs à deux là et faire des enfants et tout. Et j'ai pas encore fait l'émission là-dessus et j'aimerais bien que des gens la fassent.
Alors moi, je pense que ce que j'aimerais entendre à la radio, c'est de la folk italienne, parce que juste avant d'avoir le Covid, j'ai allumé la radio la nuit et je suis tombée sur une chanson incroyable. Il était genre 4h du mat et c'était vraiment un super moment. Et après, elle a duré peut-être 8 minutes cette chanson et du coup, je me suis dit que j'avais envie d'avoir encore ce genre de surprise.
Et à vous en studio, c'est quoi votre idéal de radio ? Moi, par exemple, je commence, j'aimerais écouter plus de, enfin, des interviews, ouais, des écrivains, écrivaines racisées, lire des bouts de leurs textes, des bouts de textes, des bouts de romans, et me raconter c'est quoi leur processus d'écriture. Voilà.
Ben, moi, j'adorerais écouter des sons un peu étranges, des trucs un peu beaux, mais un peu étranges, où on ne sait pas trop où on est. Et aussi des sons où on s'amuse, où on joue. Le jeu à la radio, j'adore ça.
Eh ben, moi, ce que j'aimerais bien sûr faire comme émission, c'est une émission où on s'amuse avec le son et l'écriture. Mais ce que j'aime bien écouter et ce que j'aimerais écouter, c'est une émission qui fait du bien à tes oreilles et à nos oreilles et qui remonte le moral.
Et moi, ce que j'aimerais écouter, c'est aussi parfois des choses qui me font rire et sourire. Ça arrive de temps en temps, mais je crois que j'aimerais que ça arrive plus. Et aussi des émissions où, en tout cas des choses où peut-être on entend des âges différents, des personnes de différentes générations. Et aussi je pense que je serais un peu discriminante puisque j'aimerais entendre que des voix graves quand il y a de la voix.
Moi j'aime bien entendre, écouter des choses où j'ai l'impression de grandir et du coup aussi des plein de gens qui parlent de différents sujets et qui proposent plein de points de vue et pas juste ceux des médias mainstream.
Et moi, j'aimerais écouter aussi des émissions qui ouvrent mon imaginaire et nos imaginaires et où à la fin, on se dit oh, « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça » et il y a un nouveau champ qui s'ouvre comme ça dans nos têtes et nos oreilles.
Moi, j'aime bien apprendre des nouvelles choses.
Et entendre plus d'enfants aussi. Ça a été dit dans le premier micro-trottoir, mais je suis d'accord.
Bref, on a de quoi faire.
Bah, bravo pour cette première émission.
Merci à vous.
Et puis on sait qu'on doit diffuser la prochaine fois de la folk italienne. C'était une demande très précise.
Merci pour toutes vos idées d'émission.
Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Salut.
Sur le fil. Une émission de création sonore.
Ni philharmonique, ni décousue.
Enfin un peu quand même. Une émission qui donne du fil à retordre, qui fait des nœuds, qui en mêle, qui s'en mêle, qui démêle.
De fil en aiguille, des jeux d'arpètes. Reportages, fiction, entretiens.
Et autres bouts de ficelle.
Une heure de tout et de rien.
Fabriquée par des transpédéguines féministes ou des potes queer un peu timbrés.
Une émission qui traîne sous son nom.
Voilà, c'est sur le fil.
Une émission par hasard.
Au gré du Mistral.
Une émission de haute voltige. Voltage.
Fréquence.
De 18h à 19h, tous les deuxièmes lundis du mois, sur Radio Galère, 90.4 FM et en DAB+.